Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteur, compositeur, interprète, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Bien, quel est le rôle de la société civile dans le développement d'un pays? Les organisations de la société civile sont des partenaires incontournables des décideurs politiques dans le développement d'un pays. En RDC, la société civile fait preuve de nombreuses faiblesses qui limitent l'impact de son action. Parmi ces faiblesses, on note la mauvaise gouvernance, la manipulation par les hommes politiques, la corruption et autres. Alors, quel rôle la société civile doit jouer dans le développement du pays? Pour en parler, nous recevons M. Rachidi Kayombo. Bonjour M. Rachidi.
Bonjour M. le journaliste.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chargé des programmes de formation à l'Institut stratégique de développement. Parlez-nous de cet institut, en quelques mots.
Bien, l'Institut stratégique pour le développement durable est une structure d'experts, d'hommes qui veulent, n'est-ce pas, que le Congo puisse connaître un changement dans une vision nouvelle de transformation du monde. Alors, l'Institut a été créé en 2004.
Oui.
Et il a eu comme programme l'accompagnement des processus de transformation politique pour une gouvernance démocratique en République du Congo.
D'accord.
Au départ, l'accord de Sun City, parce que l'accord de Sun City a balisé le chemin, que devait être le comportement, n'est-ce pas, de toutes les composantes de la société congolaise et les partis politiques et la société civile pour que le Congo puisse véritablement connaître un changement.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la société civile. Monsieur Rachidi, c'est quoi la société civile?
La société civile, c'est pratiquement la société elle-même. Mais la différence, c'est quoi? C'est que dans toute communauté, il y a toujours des gens qui ont la préoccupation et qui portent les aspirations pour un changement positif. Cela se distingue par différents mouvements qui s'opèrent dans la société.
Des organisations non étatiques.
Non étatiques.
Oui.
Et ces organisations-là ont l'obligation de réveiller tout le temps les gouvernants sur la marche de la communauté, de manière à ce que la communauté puisse bénéficier des avantages, n'est-ce pas, du progrès mondial. Alors, dans notre cas ici, au Congo, nous devons donner des repères. Si nous voyons le monde, à un moment donné, l'Europe occidentale, à l'ère de l'industrialisation, c'était les syndicats. Avant l'industrialisation, à l'époque des féodalités, c'était les églises. Mais alors, chez nous ici, comme tout le monde veut être porteur du changement, et il n'y a pas d'organisation efficace pour, n'est-ce pas, permettre à...
D'accord, on va y revenir. D'abord, on retient que la société civile, c'est l'ensemble des forces vives.
D'une société.
D'une société, ouais, qui milite pour le changement, pour un changement positif.
C'est ça.
Alors, parmi ces... Dans ces organisations non étatiques, on peut citer... Vous pouvez les citer?
On peut
ces
citer...
Ces différentes organisations.
On peut citer les églises, voilà. On peut citer les sociétés savantes, on peut citer les associations professionnelles, on peut citer les associations récréatives, on peut citer également les sociétés... les types industriels, économiques, donc les entrepreneurs,
oui,
ils sont organisés. Donc tout ça, ça fait les différents compartiments de la société civile.
Les syndicats?
Les syndicats également, parce que ça dépend, n'est-ce pas, de l'approche que les syndicats peuvent prendre à un moment donné dans les processus de changement social.
Voilà. Alors, pourquoi on dit souvent que la société civile à RDC, elle présente beaucoup de faiblesses?
Bien, si nous pouvons faire une analyse objective, le problème c'est que nous avons dans notre communauté des communautés, des groupes que nous appelons des conservateurs et d'autres qui sont des progressistes. Il y en a pour les intérêts qu'ils peuvent, n'est-ce pas, obtenir à un moment donné. Ils ne veulent pas, ils abandonnent le changement positif, et encore faut-il que nous ayons une vision, parce que tout ce que nous avons comme mouvement à travers le monde, que ce soit l'émancipation des peuples hier colonisés, que ce soit la démocratisation, ça vient à des airs donnés. Et il y en a parmi les groupements sociaux dans la communauté qui portent ces valeurs-là, et qui veulent que ces valeurs-là soient les valeurs de la société. D'autres refusent, et s'alignent sur une attitude qui ne puisse pas permettre à ce que ces changements puissent arriver. Alors nous avons deux camps. Et comme notre pays est trop vaste et que tout le monde prétend connaître tout, on croit que on peut apporter un changement en étant un groupe minuscule sans mobiliser toute la population, de manière à apporter effectivement une dynamique qui pourrait permettre à ce que le changement arrive le plus rapidement possible.
Alors, quel rôle doit jouer la société civile dans le changement social?
La société civile dans le changement social doit d'abord porter haut les idéaux ou les destins, n'est-ce pas, de manière théorique, les destins d'une population. C'est à partir de cela que la population sera mobilisée pour faire aboutir ce que je pourrais appeler un programme, ou une aspiration.
Alors, donc, ça... Un exemple précis, porter haut les aspirations, c'est ça?
Oui, porter haut les aspirations. Je vais donner un exemple.
Un exemple précis, oui.
Bon, nous avons, parce que moi je suis syndicaliste, vous verrez que nous avons un cas de SMIC qui a été institué en 2002. Aujourd'hui, toutes les conditions socio-économiques de travail ne permettent pas que ce SMIC-là puisse permettre à ce que les agents, les travailleurs puissent vivre dignement. Mais lorsque quelqu'un ne peut pas porter, pour dire que faisons, n'est-ce pas, une gymnastique pour déterminer un nouveau SMIC qui pourrait permettre à ce qu'on partage les richesses nationales équitablement, alors ce sera difficile, n'est-ce pas, d'engager un changement profond qui pourrait permettre, n'est-ce pas, de toucher les autres pans des avantages sociaux dont les travailleurs ont besoin.
Voilà, donc quel autre rôle la société civile
joue? Le deuxième rôle important que la société civile joue, c'est le rôle des sentinelles. Doit absolument surveiller la gouvernance. Et c'est dans ce cadre-là que les dialogues entre la société civile réelle, porteuse, n'est-ce pas, de revendications, des aspirations de la population, doit pouvoir dialoguer avec les autorités institutionnelles. C'est parce que il faudra trouver des mécanismes, des dispositifs devant à la fois mobiliser la population et en même temps permettre aux autorités de gouverner en faveur de la population, donc au service de la population. Mais ce que nous vivons, c'est qu'il y a une fracture entre les dirigeants et la société. Et c'est là où une frange de la société civile se range derrière un mode de gouvernance et on dit que cette société civile est manipulée, elle est corrompue. Et pendant qu'une autre frange refuse cette pratique-là, dénonce cela, elle est rangée dans les cas, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle opposition, alors qu'il n'y a pas d'opposition. C'est une alerte, tout simplement, un vouloir changer fondamentalement de toute la communauté nationale.
Donc on retient que le rôle de la société civile, c'est de porter haut les aspirations de la population pour en vue de trouver un changement social. Ouais. Et puis vous avez parlé, la société civile joue le rôle des sentinelles, surveiller la gouvernance, mobiliser d'une part la population et d'autre part, donc elle est en fait à cheval entre la population, entre les gouvernés et les gouvernants.
C'est ça. Et c'est ça le rôle véritable de la société civile. Si nous devons voir dans les comportements quotidiens, il y a des groupements qui, à un moment donné de l'histoire d'un peuple, abandonne cette tâche-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui dans notre pays une société civile bureaucratisée, qui étouffe justement...
Il semble qu'il y a d'ailleurs plusieurs sociétés civiles.
Il y en a plusieurs, parce que celle qui est là est bureaucratisée. Elle ne permet pas, n'est-ce pas, l'explosion des idées novatrices dans une communauté. Alors, il y a une sorte de compétition, et les gouvernants s'y mêlent. Donc, la manipulation, n'est-ce pas, vient, n'est-ce pas, créer une fracture entre...
La société civile, aujourd'hui, a des colorations politiques.
Bon, elle ne peut qu'avoir des colorations, n'importe lesquelles. Mais le problème, c'est entraîner une dynamique qui pourrait permettre à ce que les changements qui viennent soient positifs, soient en faveur de l'intérêt général. N'oubliez pas ces mots-clés. La société civile, c'est au cœur de l'intérêt général. Est-ce que ces différents groupements-là jouent-ils le rôle pour promouvoir l'intérêt général, sans discrimination? Mais ce n'est pas le cas. Nous voyons que certains partis politiques, certains groupements de société civile, n'est-ce pas, se rangent derrière les intérêts partisans. C'est là le hic.
Quel est le rôle de la société civile dans le développement social? Laurent Yumba est à Kalemi. Arsène nous appelle de Bujumbura, au Burundi.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Quel est le rôle de la société civile dans le développement social? Laurent Yumba, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Vous êtes à Calémy, quelle est votre question?
Oui, ma question, je voulais savoir seulement les rôles réels de la société civile dans la société. Parce que moi, selon moi, je savais que la société civile devrait jouer réellement le rôle d'un trait d'union entre la société, entre la population et le gouvernement. Mais ça, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, partant par votre, par l'invité, je ne sais pas l'invité peut nous éclairer quant à ce.
D'accord, merci Arsène. Vous êtes à Bujumbura. Bonjour.
Oui, allô. Bonjour, je vous écoute. Hein.
Oui, quelle est votre question, Arsène?
Bon, en fait, je remercie de m'associer dans l'émission, mais je pose à notre invité des questions. La toute première question, bon, je lui demande si au Congo, il y a combien de sociétés civiles. Parce que bon, nous ne savons pas aujourd'hui, nous avons combien de sociétés civiles. On ne sait pas si ces sociétés civiles-là sont structurées, de quelle manière, ou on ne sait pas, bon, ça se penche pour quel rôle soit en 80%. Bon, la deuxième question que je pose à notre invité, bon, moi, selon mon avis, je vois que la société civile aujourd'hui, c'est le prolongement des pouvoirs en place. Parce que, bon, nous voyons la société civile, bon, c'est comme si c'est, ça devient comme, je peux dire, comme l'enfant, ou bien ça devient comme un ami des pouvoirs en place. Parce que nous avions vu, Bahati Lukwebo, bon, c'est le but, je pouvais dire le fondateur, aujourd'hui il est le ministre. Bon, il y en a d'autres exemples, malheureusement, nous n'avons pas le temps de les épingler. La toute deuxième question que je pose à l'invité, pourquoi la société civile du Congo, ça ne pouvait pas se pencher en caractère social? Parce qu'il y a des difficultés suite à des faillances de pouvoir en place de la société civile, mais de tout. La société civile, c'est comme si appuie ce gouvernement-là de faire souffrir les Congolais. Parce que je ne peux pas comprendre si la société civile,
Arsène,
aujourd'hui, ça pouvait bien. Je termine.
Alors, merci.
Je suis pour la deuxième question.
Oui.
Je suis pour la deuxième question. Parce que, bon, moi, donc, ce qui est vrai, c'est pour, ça pouvait être mieux que la société civile du Congo, ça se penche à caractère social et non à caractère politique.
D'accord,
que,
on a compris.
Vous savez, c'est qui nous
Arsène.
Arrive souvent à Goma.
D'accord, merci, on a compris votre préoccupation, Arsène. Ogui, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, je vous dis bonjour à notre invité, bonjour à tous ceux qui sont présentement branchés. J'ai des questions
oui.
à poser à notre invité et voici la première. Est-ce que l'invité peut me préciser la différence qu'il y a entre une société civile et l'ANER, donc l'Agence nationale de renseignement? Et ma deuxième question, comment est-ce qu'il peut créer une société civile dans un milieu et quels sont les critères pour en être un membre? C'était là mes deux questions. Je vous dis bonne suite de programme sur les antennes de la radio Capi. Merci beaucoup.
Bien, merci à Ogui Bendelo de Kikwit pour votre question, Monsieur Rachidi, vous avez suivi. Laurent qui dit la société civile doit être un trait d'union entre le gouvernement et la population. Pourquoi elle ne joue pas ce rôle aujourd'hui?
Bien, je crois qu'il a peut-être partiellement raison. Mais ce que nous devons dire, qu'il y a trois missions fondamentales de la société civile. La première mission, c'est de représenter les aspirations et la destinée d'un peuple, d'une société. Est-ce que ceux qui se prétendent aujourd'hui être membres de la société civile ou diriger la société civile sont-ils vraiment porteurs des aspirations profondes du peuple, de la misère dont souffre le peuple, de ce que le peuple voudrait être demain? C'est ça la société civile. Première mission, représenter ces aspirations-là. Deuxième mission de la société civile, c'est être une courroie de transmission entre la communauté et les autorités. Or, à ce niveau-là, c'est là où il y a des problèmes. La troisième mission de la société civile, c'est de mobiliser, d'éduquer, former la population en vue, n'est-ce pas, de la mettre au diapason des défis de la communauté. Or, si nous regardons de très près, pour la première mission, il y a très peu qui représentent effectivement les aspirations profondes de la population. Sur la deuxième mission, le gouvernement s'arrange pour avoir des partenaires éternels, qu'ils manipulent à coup d'argent. Ça, c'est une évidence, on ne peut pas cacher ça. Et la troisième mission, c'est que nous n'avons peut-être pas beaucoup de gens capables de mobiliser la population autour des idéaux clés. Parce que à chaque époque d'une communauté, la société connaît des défis. Et la société doit s'organiser elle-même, sécréter des valeurs qui lui permettent de surmonter ses problèmes ou surmonter ses défis. Voilà. Donc nous avons là un déficit. Donc il ne faut pas se limiter à dire que la société civile doit être un trait d'union. La société civile peut aussi revendiquer, peut aussi dénoncer, peut aussi être consultée chaque fois que les gouvernants veulent prendre une décision quelconque dans la
commune. Alors avant de répondre aux autres, on va accueillir deux auditeurs en ligne. Jean-Louis et Yoma, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, Jean-Louis Ayoma, vous êtes président de l'ONG Action pour la réconciliation, paix et développement, ACREPAD. Vous intervenez à partir de Mbandaka. On vous écoute.
Oui. Je disais que merci pour m'avoir posé cette question, cette préoccupation. Elle est capitale. Normalement, face aux enjeux du moment, la société civile doit jouer pleinement son rôle pour la bonne gouvernance, monsieur le journaliste.
Oui.
Afin d'échapper aux multiples crises qui se manifestent et plongent la population dans la pauvreté extrême. En d'autres termes, elle doit toujours accompagner la population et l'encadrer, comme je disais, afin de la placer au centre de leur destin, c'est-à-dire sensibiliser, organiser, éduquer, informer et former la population sur la démocratie, oui, droits humains et bonne gouvernance. Et ce qui s'est fait chez nous à l'Équateur, je crois que vous avez suivi dans des médias, trop de tensions ici, la société civile s'est impliquée aujourd'hui, quand même, il y a la paix, il y a la cohésion sociale au sein des différentes compositions politiques.
D'accord, mais aujourd'hui on déplore souvent le fait que la société civile a des colorations politiques et ne joue pas pleinement son rôle.
Je crois que c'est un point de vue que les gens donnent et ça dépend d'un milieu à un autre. Sinon, mon point de vue, je suis optimiste et surtout par rapport à la charte de la société civile. Je crois que celui qui est un acteur de la société civile doit toujours être apolitique. Et même si, disons, je disais que celui qui s'occupe de la politique, c'est celle qui va s'occuper de lui. La politique, elle est omniprésente partout, mais en fait, nous devons rester neutres. Église au milieu du village.
Voilà, merci Jean-Louis Ayoma, président de l'ONG Action pour la réconciliation, paix et développement à ACREPAD en Mbandaka. Bonne journée. Nous avons également en ligne Patient Chitoko de Lumbashi. Bonjour Patient.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Patient Chitoko vous appelle à partir de Katanga.
On vous écoute Patient.
Oui, je voulais tout d'abord vous dire ceci. La société civile est là comme intermédiaire entre la population et le gouvernement. C'est ça ce que notre invité nous a parlé là-bas.
Oui.
Et il nous a dit qu'il y a plusieurs sociétés civiles. La fois passée, j'avais trouvé quelqu'un de la nouvelle société civile, Force Vive, qui était arrêté puisqu'il a fait vraiment son travail. Et alors, la question que je voulais poser à notre invité est de savoir, est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un de la société civile parce qu'il a dit la vérité, puisqu'il a fait vraiment son travail? Et puis, je vais savoir, la nouvelle société Force Vive, est-ce qu'il y a des partis pris? Quelqu'un qui travaille dans la société civile, est-ce qu'il peut être un politicien?
D'accord. Merci. Patient Rigobert, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste Daniel Kachama.
On vous
bonjour
écoute.
Bonjour à l'invité. Mm-hmm. La problématique de notre sujet ce matin réside au niveau de la publicité de la société civile en République démocratique du Congo qui n'arrive pas à mener les actions auprès de la population. Quel rôle que devait jouer au moins la société civile en République démocratique du Congo? Sur le plan international, nous devons dire ceci. Elle doit être apolitique d'abord, elle doit être neutre, c'est-à-dire au milieu du village, être responsable et dans la partialité aussi. Elle doit accompagner le gouvernant dans la prise de décisions populaires. Elle doit lutter contre les antivaleurs, ce que l'invité vous a expliqué là.
Oui.
Elle doit aider aussi et ou prévenir les autorités si une situation anormale dans le pays. Mais qu'est-ce que nous remarquons en République démocratique du Congo? Ce n'est pas le cas. J'ajoute un élément qui devait aussi jouer la société civile en tant que coordonnateur de l'ONG Amis des Abalek. Elle doit défendre l'ensemble des valeurs qualitatives et quantitatives pour atteindre un certain nombre d'objectifs précis sur le développement. Quand on parle de développement que vous avez évoqué dans votre sujet, c'est, nous faisons allusion à la mentalité de la population. Mais hélas, en République démocratique du Congo, la société civile fait preuve de nombreuses faiblesses. Je cite par exemple, j'ai dit, elle est dans la combine avec les politiques. Nous voyons, quand il y a une décision qui tombe, la société civile est là pour défendre cette décision, malgré cette décision est impopulaire, ce qui n'est pas normal. Elle est aussi plongée dans la corruption. Je donne un exemple, l'invité l'a dit, il a dit qu'elle est dans le monde syndical. Il y a l'organisation syndicale en République démocratique du Congo qui n'arrive pas à défendre les travailleurs. L'employeur qui sont en train de manipuler, de torturer les travailleurs. En parlant de revenir, il a fait allusion
au SMIG,
des chefs de l'État.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont déjà fait preuve pour expliquer la population ou les employeurs par rapport au SMIG que le chef de l'État avait signé? Ce qui est grave, désolant au niveau de la société civile. Elle est aussi caractérisée par la partialité, comme un invité, un intervenant vient de le dire. Elle est soit dans l'opposition, soit il est au pouvoir. Ça n'arrive pas à voir la couleur de la société civile, ce qui n'est pas normal. Et à son sein, c'est-à-dire dans l'air que l'organisation, il n'y a pas l'unité. En RDC, ailleurs, il y a l'unité. S'il y a une décision quelconque, là, vous vous mettez ensemble pour que vous analysez et vous expliquez à la population, vous vulgarisez cette information.
D'accord, merci Rigobert.
De manière...
D'accord, merci Rigobert. On revient à notre invité, Monsieur Rachidi Kayombo. Vous avez suivi toutes ces préoccupations. Revenons d'abord à Arsène de Bujumbura qui dit combien de sociétés civiles y a-t-il au Congo et comment est structurée la société civile. C'est la question d'Arsène de Bujumbura.
Bien, je remercie infiniment notre ami de Bujumbura. Je voudrais dire que la société civile, elle ne se crée pas, elle ne se décrète pas. On l'observe. On constate que ça, c'est une société civile. D'où la question de la neutralité, de la politisme. Donc, s'il y a quelqu'un quelque part, ou un groupe de gens quelque part dans un village, qui défend l'intérêt du village, tout le monde reconnaît que non, cela défend l'intérêt du village. Au dépend de leurs intérêts égoïstes, de l'intérêt partisan. Donc, la société civile ne se décrète pas. C'est l'organisation même de la société qui fait qu'on reconnaît à un groupe de gens la capacité de mobiliser, la capacité de dire la vérité, la capacité de mener, n'est-ce pas, un mouvement, la dynamique de la société vers un changement. Oui. On la constate. Mais chez nous, on la crée. Voilà le mal. Voilà pourquoi.
Finalement, il y a combien de sociétés civiles ici, à RDC?
Bien, il semble qu'il y en a plusieurs. Moi-même, je n'ai pas encore. Je ne suis pas arrivé à dénombrer tout.
Quelqu'un a parlé de la nouvelle société civile Force Vive.
Oui, j'entends parler de la société civile, la Force Vive. Mais, cependant, les idéaux porteurs, qu'est-ce que ces idéaux portent? Moi, je ne les ai pas encore identifiés très clairement. C'est par rapport au changement politique du pays, donc à la démocratisation, ou au type d'élections qu'on a pu avoir, ou au processus qui n'a pas été achevé. C'est par rapport à quoi? Donc, on ne se définit pas société civile comme ça au hasard. On se définit par rapport à un problème de société. Donc, s'il y en a qui peuvent parler, par exemple, du processus électoral, qui peuvent parler de la pauvreté, qui peuvent parler de la coopération internationale. Donc, il y a plusieurs thématiques qui font qu'on peut découvrir les gens capables, n'est-ce pas, de plaider pour l'intérêt général dans cette thématique-là.
Mais on a l'impression que cette société civile n'est pas organisée. Dernièrement, il fallait trouver quelqu'un.
Mais qui doit l'organiser?
Quelqu'un pour de la société civile qui devait entrer à la CENI. Il fallait trouver quelqu'un. Non, mais c'était la guéguerre.
Oui,
c'était pas facile.
Oui, mais parce que nous n'avons pas encore des gens professionnels. C'est ça le problème. On croit qu'on va là-bas pour gagner l'argent facile, même si on n'a pas les capacités de pouvoir jouer moralement et intellectuellement ces rôles. Voilà. Donc, on est là à la recherche des avantages. Mais, cependant, s'il était question, n'est-ce pas, de définir des critères objectifs pour avoir les gens qu'on devait nommer à CENI, on trouverait bien des gens pour la justice et donc pour la CENI. Mais, comme on y va pour, n'est-ce pas, remporter à tout prix.
À ordre dispersé.
Et à ordre dispersé, eh bien, on ne saura pas avoir une organisation crédible.
Ogi Bendelo qui dit la différence entre la société civile et l'ANER. L'ANER, c'est l'Agence nationale des renseignements.
C'est un service de l'État.
De l'État, oui.
Normalement, lui aussi, qui ne joue pas son rôle.
Hein? Bon, on n'est pas là-bas, nous, on est juste en train de...
Ils doivent protéger les institutions, pas protéger les individus. C'est ça le problème de l'ANR.
Voilà, nous, on n'est pas là-bas. Nous, on était juste en train de donner la différence entre les deux. Et puis, il dit, comment créer et gérer la société civile? Ça se fait comment?
Bien, moi, j'ai dit, c'est à partir des idées, à partir de vouloir être d'une communauté. Les gens se placent. Les uns pour mobiliser, les autres pour organiser, les autres pour prendre des contacts, les autres pour négocier avec ceux qui ont les rênes du pouvoir.
Éduquer les masses.
Éduquer les masses, c'est ça. Mais lorsqu'on est en dehors de cela, on est en train de manipuler les gens pour, n'est-ce pas, se positionner en faveur, n'est-ce pas, d'un tel ou tel poste qui se dessine, n'est-ce pas, dans l'horizon politique. Eh bien, on ne fait plus la société civile. On est maintenant politicien. Donc, j'ai dit, et un des correspondants a posé la question ici, quand est-ce qu'on peut être à la fois société civile et parti politique? Mais j'ai dit oui. L'individu peut être membre de la société civile parce qu'il est animateur, il est éducateur, mais appartenir à la société civile, c'est une autre association, les partis politiques, l'individu. Mais lorsqu'il peut appuyer,
mais on a dit que la société civile est la politique.
C'est la communauté qui est apolitique. L'individu n'est pas apolitique, il a un penchant, il a un jugement. N'est-ce pas? L'individu peut vouloir bien être membre de telle communauté ou parti politique.
Mais qu'il doit l'afficher du moment où il est membre de la société civile.
J'ai dit, la communauté, c'est l'organisation ne peut pas être apolitique. Mais l'individu peut être politique. C'est ça. Il peut avoir un penchant, un jugement par rapport à un événement donné et donner son point de vue. Le mal, c'est d'influencer les autres membres de son association pour qu'ils adhèrent à son option. C'est là le mal. C'est là où ils doivent se garder, n'est-ce pas, d'être apolitique.
D'accord. Adrien Banza nous appelle de Kimpese, dans la province du Bas-Congo. Adrien, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Adrien.
Oui, je dois poser un petit peu.
Oui.
La première est d'avoir un membre de la société civile peut aussi être membre d'un parti. Quelle différence y a-t-il entre l'opposition et la société civile? La troisième question, est-ce que un membre de la société civile doit aussi être candidat ou expliquer un mandat politique?
D'accord, merci. Sa première question, il veut savoir. Vous venez d'ailleurs de répondre. Est-ce qu'un membre de la société civile peut faire partie d'un parti politique?
Individuellement, oui. J'ai dit bien individuellement, oui. Parce que c'est un homme, un esprit, il peut avoir un jugement. Il peut être favorable.
Avoir un penchant,
oui. N'est-ce pas? Mais lorsqu'il doit être membre d'un parti politique, il ne doit pas amener toute l'organisation dans ses intérêts. C'est là le mal. Donc voilà pourquoi on dit que la société civile doit être apolitique au milieu du village. Donc elle doit être capable de mobiliser tout le monde pour l'intérêt général. À partir du moment où on s'écarte, n'est-ce pas, de cette option, on n'est plus société civile.
Alors, deuxièmement, différence entre l'opposition et la société civile.
La dynamique actuelle, n'est-ce pas, du monde a fait que les organisations de défense des droits de l'homme, n'est-ce pas, les syndicats, les églises ont porté par moments des aspirations de changement. Et lorsqu'ils ont manifesté cette liberté-là de pouvoir, n'est-ce pas, réclamer tout haut des changements,
on les assimile à
l'opposition politique. Cependant, l'opposition politique elle-même aussi, mal organisée, incapable, n'est-ce pas, de pouvoir se mettre au diapason d'un combat politique pouvant assurer l'alternance, elle se penche souvent vers... Donc elle va se cacher derrière la société civile. Donc c'est ça qui fait qu'il y a une confusion.
Il y a une confusion.
Il y a une sorte de confusion.
Oui.
Mais cependant, nous sommes sûrs que lorsque les institutions de la société civile peuvent effectivement jouer leur rôle, les syndicats jouent leur rôle dans leur cadre de travail, les églises jouent véritablement leur rôle de faire triompher la vérité et l'amour, et les autres associations de faire triompher la science, par exemple les sociétés savantes, eh bien les choses changeraient et on distinguerait clairement qui joue quel rôle et qui joue tel autre rôle. C'est ça les drames que nous avons ici. Nous avons dans la confusion, et les gouvernants nous plongent dans cette confusion, et ils ne veulent pas que nous puissions sortir de cette confusion pour permettre à ceux qu'on mette arrête les gens facilement.
Est-ce le gouvernement ou c'est vous-même qui n'arrivez pas à vous organiser?
Bien, je crois qu'il y a la part... Donc nous pouvons partager cette responsabilité, et nous-mêmes, et les gouvernants.
Alors, il pose encore une autre question. Est-ce qu'un membre de la société civile peut être candidat? Il peut briguer, par exemple, un mandat politique?
Candidat indépendant, oui. Mais la mission de la société civile, ce n'est pas de concourir à l'exercice du pouvoir. La mission, c'est surveiller les intérêts de la communauté. Donc, si l'individu veut aller concourir pour être, n'est-ce pas, pour être candidat à des postes politiques,
il perd sa qualité de membre de la société.
Rien à faire. À partir du moment où il est parti, il a porté sa candidature, il a publié sa candidature, il n'est plus membre de la société civile. Parce qu'il risque d'influencer cette communauté. Et c'est ça aussi le danger pour les élections prochaines. On croit être membre de la société civile pour pouvoir avoir une base qu'on pourra justifier pour les élections à venir.
Voilà. Et on va terminer avec la question de Papi Kassema depuis Kinshasa. Quelle est la différence entre ce qui est des rôles, la différence entre le rôle de la société civile, les ONG, les élus du peuple, qui sont les parlementaires?
Les ONG
font partie de la société civile.
Absolument. Voilà. Les ONG font partie de la société civile, n'est-ce pas? Mais la profession ou les champs d'action fait la différence entre différentes organisations. Deuxièmement, les partis politiques ont été créés pour concourir à l'exercice ou au maintien, à la conservation du pouvoir.
Du pouvoir.
Donc nous ne sommes pas partis politiques.
Est-ce que les élus du peuple font partie de la société civile?
Non, les élus du peuple sont des politiciens.
Voilà.
À partir du moment où vous exercez un pouvoir public dans une institution publique, vous devenez politicien.
Vous n'êtes pas membre de la société civile.
Non.
Mais certains sont à la fois parlementaires dans la société civile.
Vous ne pouvez pas être jugé parti. Vous êtes dans une institution où vous jugez, vous arbitrez les intérêts de la nation et vous dites que vous êtes un défenseur. Non, vous ne pouvez pas être défenseur.
On ne peut pas le
faire. Dès que vous êtes dedans, c'est fini. Vous n'êtes plus société civile. Vous devenez parti.
Aujourd'hui, alors pour terminer, M. Rachidi, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une société civile forte en RDC et qui joue pleinement son rôle?
Bien, la question c'est une question très difficile. Moi, je crois que c'est la dynamique d'une communauté. À partir du moment où nous disons que nous sommes un pays démocratique et qu'on laisse les gens parler librement, se mouvoir librement et exercer, n'est-ce pas, les pressions pour le changement de certains systèmes de gestion, la société civile va naître d'elle-même. Mais lorsqu'elle est d'office accréditée par le gouvernement, ça c'est un mal profond dans notre pays. Nous croyons que la société civile est là, c'est elle de se faire identifier, c'est elle de pouvoir jouer son rôle dans le cadre des missions que j'ai évoquées tout à l'heure,
oui.
N'est-ce pas, porter effectivement les aspirations du peuple et faire voir, n'est-ce pas, à cette population que c'est elle qui porte les aspirations.
D'accord.
N'est pas se décréter société civile en étant chez soi, en faisant des papiers, en les faisant reconnaître par le gouvernement pour dire que je suis société civile. Ça, ce n'est pas le cas.
D'accord. Rachidi Kayombo, chargé des programmes de formation à l'Institut stratégique de développement durable. Nous vous disons merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.